Je n'écris pas des pièces, j'écris des spectacles. C'est comme ça. Je ne me suis pas dit « je vais écrire du théâtre ». Je ne pense pas texte. Le texte, c'est ce qui vient après, c'est ce qui reste après le théâtre. Le texte, c'est la trace que laisse le spectacle sur du papier. Dire que l'on écrit un texte et faire de cet acte l'objet premier du théâtre, c'est une perversité. Il y a là quelque chose de fétichiste et de détourné. L'essence du théâtre, pour moi, ce n'est pas cela. Le théâtre se voit, s'entend, ça bouge, ça fait du bruit. Le théâtre, c'est la représentation. Quand on écrit du théâtre, on écrit en vue d'un événement qu'on appelle communément un spectacle. Joëlle Pommerat est ce soir notre invitée à l'occasion de la reprise de son spectacle intitulé « Ça ira, fin de Louis » qui reprend au Théâtre Saint-Martin et ce jusqu'au 19 mai. Et dans la seconde partie de cette émission, il sera rejoint par la philosophe Michèle Rio-Sarcé avec qui il évoquera les enjeux de la Révolution française mais aussi ce que signifie ce mot de « peuple » aujourd'hui. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et honneur à vous, Joëlle. On sait que dans toutes vos mises en scène, il y a de la musique. Et nous avons remarqué que dans Ça ira, mais dans d'autres spectacles, il y a un chanteur que vous aimez beaucoup. Ça tombe bien, nous aussi. On va commencer par Arnaud.
Elle a tout perdu, mais elle a bien vécu, obligée d'être gentille. Quand on est pauvre et petit, elle est trop jeune pour crever, elle est trop vieille pour voler. Mais elle se sent vide comme un condom de vieux pépé. Quelqu'un a touché ma femme. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête. Ça vient et ça passe, c'est ça qu'elle m'a dit. Il faut soigner les pauvres et les maujoussis. C'est ça qu'elle m'a dit une fois dans un lit. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme.
Pourquoi avez-vous arrêté vos études à l'âge de 16 ans, Joëlle Pommerat ?
Sincèrement, parce que je m'ennuyais un petit peu au lycée. C'était pas forcément passionnant. J'avais envie de bouger, d'entrer dans la vie active, je crois, comme on disait à l'époque. Et voilà, tout simplement.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes monté à ce moment-là à Paris, vous avez quitté Chambéry, vous avez commencé à vouloir devenir acteur, mais ça ne vous est pas convenu non plus. Et à partir de là, vous avez fait plein de petits boulots.
Alors, c'est plutôt... Non, avant de décider d'aller vers le métier d'acteur, j'ai fait des petits boulots du genre... ma première passion, c'était la pêche. En fait, je voulais devenir pêcheur professionnel.
La pêche en haute mer?
Non, sur le lac du Bourget, à côté de Chambéry, à Aix-les-Bains. J'étais pêcheur, c'est pas très glorieux, je reconnais
aujourd'hui. Bah si, c'est glorieux parce qu'il faut beaucoup de patience quand même.
Ouais, mais bon, il faut de la patience pour écrire aussi, puis pour créer des choses. Donc non, ça, c'est quelque chose qui me convenait bien. La solitude de ça aussi. Le matin aussi, d'être du matin plutôt que le soir. Enfin voilà, j'étais assez heureux adolescent dans ce petit trip d'aller à la pêche.
Vous y alliez avec votre père ?
J'y suis allé avec mon père jusqu'à sa mort. Et puis après, j'y allais seul, ouais. Et puis, ben, j'ai fantasmé un petit moment de me dire, voilà, je vais passer ma vie sur ce lac avec une barque et je vais ramener du poisson pour les restaurants et tout ça.
Mais c'est ce que vous faites, au fond, aujourd'hui.
Oui, enfin, je ramène des choses moins concrètes, mais oui, il y a une question vraiment, il y a un rapport à, enfin, cette chose qu'on va aller pêcher en quelque sorte, qu'on va aller tirer des profondeurs en tout cas d'un espace assez grand et invisible en fait, enfin comme peut l'être l'eau et sous l'eau quoi. Donc oui, on peut faire une analogie.
Et tous ces petits boulots que vous avez faits à Paris pour pouvoir subsister, vous ont-ils appris à goûter l'existence autrement? Vous ont-ils appris le rôle de personnage? Et vous ont-ils incité à devenir acteur?
Alors, en fait, j'ai eu la chance d'être acteur assez rapidement. Enfin, après donc être venu à Paris, et, j'ai eu la chance d'entrer dans une compagnie, une jeune compagnie, comme on disait aussi à cette époque. Et j'ai travaillé, j'ai vécu en tant qu'acteur assez rapidement. C'est quand j'ai décidé d'arrêter d'être acteur qu'il a fallu survivre et que j'ai enchaîné pas mal de boulots alimentaires. Et le boulot celui qui a duré le plus et qui était le plus stable et finalement qui convenait bien, c'était celui de veilleur de nuit dans un hôtel et ça a duré 4 ans. Et ça me permettait d'être disponible la journée et de pouvoir éventuellement travailler un peu. Bon, même si je suis pas du soir, donc c'était difficile d'écrire depuis l'hôtel, mais en tout cas de réfléchir et d'organiser ma journée pour le lendemain.
En ce début d'émission, j'ai lu un court texte d'un entretien que vous avez donné dans un livre magnifique avec Joël Gayot qui s'intitule « Trouble » au pluriel. C'est d'ailleurs un mot qui vous caractérise bien, aussi bien votre pratique artistique que l'émotion que vous nous offrez à nous, spectateurs. Et on s'aperçoit que vous êtes un des rares metteurs en scène contemporains qui ne montait que vos propres textes, à l'exception, je crois, d'une seule pièce de Catherine Anne il y a très très longtemps. Ce texte, il prend combien de temps pour être élaboré et comment naît-il à l'intérieur de votre cerveau?
Ça dépend des créations. Il y a encore quelques années, on a eu un rythme assez soutenu, c'est-à-dire des fois plusieurs créations dans une année. Donc entre le moment de la décision de travailler sur un sujet, un thème, et puis le moment de la création, il se passait finalement presque, enfin il se passait quelques mois, même pas une année. Après, j'ai décidé de ralentir, et là vraiment j'ai envie de ralentir ce rythme-là parce que il a pas produit que des bonnes choses. Et puis j'aime de plus en plus prendre le temps, et j'aime de moins en moins être pressé ou stressé dans le travail. Donc par exemple sur Saïra, on a mis 2 ans. Enfin j'ai mis 2 ans entre le moment où j'ai commencé vraiment à travailler sur le sujet et la création. C'est 2 années se sont écoulées avec beaucoup de temps d'écriture solitaire et 6 mois de travail avec les comédiens.
Vous avez fondé une compagnie il y a maintenant pas mal d'années qui s'appelle Louis Brouillard, référence explicite à Louis Lumière.
Oui, il y avait un petit jeu là, oui.
parce que des images, vous nous en proposez beaucoup à l'intérieur de votre pratique artistique, Joël Pommerat. Ce ne sont pas des images vidéo, comme la plupart des metteurs en scène contemporains, mais ce sont des images mentales que vous réussissez à provoquer en chacun d'entre nous. Pourquoi ?
Parce que ma référence, c'est pas le cinéma. Après, je le dis à chaque fois, et puis on me ramène souvent au cinéma, et puis peut-être, voilà, la référence à lui, lumière, lui, brouillard, je sais pas. Mais en fait, c'est la littérature qui est plutôt, enfin, inspiratrice pour moi. C'est vraiment les images qu'on se crée à la lecture qui sont vraiment mes références, en fait. J'ai longtemps, enfin, au début, c'était vraiment mon obsession de produire des images équivalente à celle qu'on produit en soi-même à la lecture d'un livre. Je me suis quand même cassé le nez avec ça parce que c'est une utopie en fait. Mais c'était ça la référence. C'est pour ça que j'avais vraiment, enfin que j'ai choisi de pas créer des décors, des scénographies lourdes. Je voulais le moins possible de choses matérielles sur scène, un espace vide le plus vide possible. Pour le remplir finalement de vision en fait, enfin le remplir d'immatériel, à l'exception évidemment des corps et de la densité des corps des acteurs et des actrices.
Je vous propose d'écouter la voix de Claude Régis à propos de son attrait pour les contraires dans son œuvre, exactement comme Pessoa, que Claude Régis a monté. C'est une archive INA du 8 mars 2010.
Outre les beautés de l'écriture qui sont évidentes, on ressent aussi qu'on est atteint dans un autre endroit de soi-même. Je pense que cette dimension-là, dans l'œuvre de Pessoa, est tout à fait essentielle. Ouais. Quand il en réfère à Dieu, il dit qu'il faudrait un Dieu à l'envers, un Dieu satanique. Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, il joue tout le temps à assembler les contraires. Et ça a été aussi une obsession dans mon travail depuis le début. Et c'est certain qu'en assemblant les contraires, au lieu de faire une division, une opposition, on crée un territoire tout à fait nouveau, parce qu'il n'est jamais envisagé, très rarement usité, et que le choc de deux contraires, les échanges qui peuvent se faire, le territoire qui peut se créer entre les contraires, si on agit autrement qu'en les séparant et en les opposant, mais au contraire en cherchant ce qui peut naître de leur conjonction. Et là, dans le poème, c'est à tout instant qu'il fait les oxymores, qu'il parle de concrètement abstrait, qu'il parle avec douleur voluptueusement, et que rien que ce vers-là, douleur voluptueusement, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une volupté dans la douleur, et peut-être une douleur dans la volupté, donc la définition de la volupté et de la douleur ne sont plus du tout les mêmes.
Claude Régis a depuis des décennies dépoussiéré l'idée même de l'art théâtral en France en débarrassant le plateau de tout objet inutile et de tout décor un peu suranné. Lui aussi, il inscrit la densité à l'intérieur du corps des acteurs. Lui aussi, il s'imprègne de poésie, de philosophie, de métaphysique. Et le théâtre est pour lui comme une sorte de rituel. Vous inscrivez-vous dans les pas de Claude Régis, et je sais que vous êtes aussi un grand lecteur de l'œuvre de Pessoa, Joël Pommerat.
Oui. Une filiation, moi, j'oserais dire que j'en vois une, que j'en revendique une. Je pense pas qu'il en serait forcément d'accord ou fier. Je pense que je me suis éloigné du rythme et de la temporalité de son théâtre. Je fais un théâtre de plus en plus concret, de moins en moins mental, en fait. Je disais un peu tout à l'heure, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment obsédé au début, que j'ai plus ou moins lâché pour aller vers quelque chose de plus immédiat, de plus simple, de plus concret, voire de plus immédiatement réel. Ce qui veut pas dire que la matière invisible de la réalité ne continue pas à m'interpeller et que je cherche pas à la capter, mais aussi je m'intéresse au visible et au corps immédiatement, aux rencontres et aux conflits qui peuvent se produire dans cette rencontre.
Pas seulement, parce que quand on se souvient de certains de vos spectacles, et notamment Cercle Fiction, vous êtes un artiste qui, dans le domaine du théâtre, qui par essence est le lieu du visible, brouille les pistes entre l'onirisme et la réalité.
Oui, je cherche ça, entre le monde réel et le monde imaginaire. Effectivement, c'est cet assemblage-là que j'ai tenté d'opérer sur scène et éventuellement dans la tête du spectateur, en fait, puisque finalement la scène c'est pas forcément le plateau en lui-même, c'est cet endroit, cet espace qui est co-géré par à la fois l'auteur metteur en scène et le spectateur et qu'on partage et dans lequel il peut se produire des choses assez miraculeuses finalement qui échappent aux lois de la gravité, etc.
Votre art théâtral se déploie aussi grâce à une scénographie technique très au point qui est votre art de faire le noir. Pas seulement de faire le noir quand le spectacle commence, non, faire le noir aussi pendant le spectacle. Comme si nous, spectateurs, nous étions conviés à une sorte de festin d'inconscient. Vous allez chercher de ce côté-là aussi ?
Oui, ça fait partie de cet espace mental imaginaire qui compose notre rapport au réel et enfin la réalité en soi en quelque sorte. Bien sûr que je la cherche le noir parce que c'est le noir qui crée l'invisible si je puis dire, qui empêche le visible et qui permet une création éventuellement opérée éventuellement par le spectateur mis en situation de ne plus pouvoir, de devoir imaginer à la place de voir.
Alors, il y a l'acte de voir. Vous êtes un artiste qui nous inspirait tant d'émotions qu'après souvent la fin de vos spectacles, on n'a pas du tout envie de parler, on a envie de cheminer dans notre fort intérieur pour pouvoir continuer à comprendre les énigmes diverses que vous nous proposez lors d'un plateau de théâtre. Donc, en tout cas pour moi, mais je ne suis pas la seule, votre art théâtral se déploie dans plusieurs directions. Une direction de questionnement, une direction presque philosophique, de tentative de comprendre des énigmes existentielles. Je vous propose d'écouter la voix de Georges Didier Huberman, qui va parler de l'acte même de regarder. C'est une archivina du 20 mars 2018.
Et je ne veux pas que regarder possède, parce que très souvent, regarder, c'est
garder.
Regarder. C'est, je vais garder ce que j'ai regardé une fois. Et ça, d'ailleurs, sur la question du désir, sur la question du rapport entre les sexes, c'est très souvent quelque chose de féroce. Je t'ai regardé et je vais te garder. Bon, alors moi, j'ai une position plus fragile, qui est de dire je t'ai regardé, du coup, je ne peux pas te posséder. C'est toi qui me possèdes, éventuellement. C'est toi, c'est ton apparition qui me possède. Mais toi, ça peut être, encore une fois, je parle pas seulement des rapports amoureux, hein. Je parle des... parce que le désir, il s'immisce à chaque nervure de chaque instant, de chaque geste qu'on fait, chaque regard qu'on pose, voilà.
On vient d'entendre le philosophe Didier Huberman qui, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, déploie une phénoménologie de la perception en s'appuyant sur le cinéma, mais aussi sur le théâtre et bien sûr la philosophie. Et vous, Joël Pommerat, quand on vient voir un de vos spectacles, et ce depuis le début, est-ce qu'on vient pour voir ou pour regarder? Et qu'est-ce qu'il y a à voir?
Éprouver, ressentir... Je pense ni voir ni entendre, se confronter. Je pense pas que la vision au théâtre soit, enfin après tout ce qu'on vient de dire, je sais pas si ça va rentrer en cohérence, mais j'ai pas l'impression que voir au théâtre soit la chose la plus importante, essentielle quoi. Entendre non plus, puisque je suis quelqu'un qui s'est un petit peu construit sur une opposition au théâtre de texte, à la parole, au théâtre de parole, qui était la référence absolue du théâtre quand même pendant très longtemps. Et donc ni voir ni entendre, mais être en présence. Être en présence et essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas.
Depuis longtemps, et depuis notamment la chambre froide, la réunification des deux Corées et d'autres textes encore, vous utilisez des mots, très peu de mots, pour dire nos émotions les plus intimes, comme s'il y avait une pauvreté assumée de la langue, pour pouvoir aller à l'essentiel. Est-ce que ce travail d'écriture en amont vous prend beaucoup de temps, comme s'il fallait jeter, un peu comme dans le théâtre de Beckett, pour ne garder que l'intense ?
Je suis quelqu'un qui écrit presque au dernier moment. La vraie recherche d'écriture, enfin, telle que je la ressens aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe par la rétention, beaucoup plus que par la production.
Les thèmes sociétaux affleurent dans votre théâtre, et ce depuis le début, même si on vient souvent voir vos spectacles pour l'émotion intense qu'ils nous produisent de manière psychique, parce que vous nous donnez à offrir des compréhensions de l'âme humaine, un peu comme un Bergman. Mais en fait, il y a des thématiques, aussi bien la thématique de l'exploitation, de la domination, du sexisme, du terrorisme à l'intérieur de votre écriture, et ce, depuis longtemps. Est-ce que ça ira ? Le spectacle, qui est en ce moment même repris à Paris, était préparé depuis longtemps par des motifs de révolte contre notre propre société, Joël Pommerat ?
Non, je dirais pas ça. C'était un pan, enfin, ce spectacle représente, oui, une dimension que je m'empêchais d'aborder ou qui n'était pas prioritaire pour moi pendant très longtemps, mais qui était quand même de l'ordre d'une préoccupation. C'est quand même une rupture, ce spectacle, qui se situe aussi beaucoup au niveau formel, quoi, parce que c'est la première fois, je crois, que je revendique le fait que la parole est une action. Alors que dans le fond, j'aurais presque envie de dire que qu'avant, j'essayais plutôt de faire un théâtre d'action qu'un théâtre de parole. Et là, finalement, c'est la parole qui devient une action, la parole révolutionnaire qui, au moment des états généraux, affirme que voilà, nous sommes la nation, nous sommes réunis ici en Assemblée nationale et on pourra pas nous déloger. Et cette parole devient un acte politique immense et sur lequel on repose encore. Donc, parole peut être autre chose évidemment que comme je disais tout à l'heure méchamment, bavardage.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Joël Pommerat, Beyrouth, Gallipoli. Après, nous entendrons un court extrait de ce spectacle qui reprend, qui s'intitule « Saïra et fin de Louis ». Et ça sera l'occasion pour nous d'accueillir Michel Rio-Sarcé.
de la vigilance, du respect pour la personne du roi de France et pour la monarchie française, et en même temps vous vous êtes fait l'ingénieur en chef du sabotage de la France. Aujourd'hui, vous vous êtes arraché des meurtres dans les campagnes et de tout ce chaos sanguinaire dans les villes. Vous sortez vos muscles, hein? Vous prétendez au titre de champion de l'ordre. Tout ça après avoir été d'abord le champion du coup d'État contre l'autorité royale en juin dernier. Je vous méprise bien plus, monsieur Jugard, que je méprise madame Lefranc, la terroriste. Je vous hais d'avoir détruit tout ce que vous disiez défendre, et je mettrai bien dans le même lot monsieur Carré, l'intègre juif ou protestant, je ne suis pas sûr.
Nous écoutons un court extrait de Ça ira, la fin de Louis, qui est donné en ce moment même à Paris au Théâtre Saint-Martin. Michel Rio-Sarcé, merci infiniment d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce studio. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de l'utopie, de la démocratie, de l'histoire du féminisme, vous êtes vous-même féministe. Est-ce important aujourd'hui de voir qu'un metteur en scène de la stature de Joël Pommerat s'attaque, entre guillemets, à la naissance de la parole du peuple au moment des débuts de la Révolution?
Bien sûr, c'est important. C'est important d'autant que cette parole du peuple a historiquement été rendue silencieuse. Il a été extrêmement difficile, y compris pour la totalité des historiens et pour moi-même, de retrouver cette parole. Et elle est toujours accessible, mais de manière singulière. Et cette immensité des voix populaires au moment des insurrections, il est extrêmement difficile d'accéder à leurs mots, pas simplement à leurs actes, mais aussi à leurs mots. Ils ont été considérés comme des acteurs de l'histoire, mais jamais comme des sujets. Donc, retracer cette dimension à travers l'art, et en particulier le théâtre, me semble absolument nécessaire aujourd'hui. C'est un moyen de retrouver des moments qui ont été, que l'on veuille ou non, évacués de l'histoire.
Est-ce la naissance, pour vous, Michel Rio-Sarcé, de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le peuple ?
Très difficile, ça. C'est vraiment impossible de restituer une histoire du peuple, une histoire populaire, bien que les historiens viennent d'écrire, que ce soit Michel Zaccarini-Fournel ou Gérard Noiriel, ont tenté cette aventure, parce que c'est une véritable aventure. Moi-même, dans le procès de la liberté, j'ai tenté de retrouver ces voix singulières. Il est impossible de restituer des paroles plurielles dans la mesure où ces paroles plurielles n'ont pas été entendues au moment où elles étaient émises. Cette difficulté est particulièrement importante pour les insurrections parce que immédiatement après les insurrections, en fonction du rapport de force, il y a une écriture. Il n'y a pas simplement une interprétation, mais il y a une écriture. Si bien que même les archives, qui sont effectivement constituées très rapidement, sont construites. Et c'est pourquoi c'est particulièrement difficile. J'assistais et j'ai eu le privilège d'assister à une répétition hier au Théâtre Saint-Martin. J'ai découvert avec stupéfaction, je m'en étais pas rendu compte, que jouer ou restituer l'émotion d'hier est particulièrement, je dirais presque impossible. Je reviens de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire, où j'ai vu des moments d'émotion, et je me disais, mais comment pouvoir parler de ça? Comment rendre compte de ça? C'est particulièrement difficile. Donc, il faut faire appel à notre imagination, à tenter de faire fonctionner ce que j'aime bien, moi, mettre en scène, la machine à remonter le temps. J'avais inventé une machine à remonter le temps pour mes élèves de sixième quand j'étais professeur du secondaire. Et revivre cet instant avec les paroles que l'on a en tête. Alors, bien sûr, ce sont des paroles à la fois restituées et puis des paroles que l'on reconstruit. Mais saisir cet événement singulier dans son avènement. Et ça, je crois que, effectivement, c'est de la capacité des historiens et des artistes.
En tout cas, ce spectacle qui s'intitule Ça ira, fin de Louis, ça fait 2 ans et demi, je crois, qu'il tourne à l'intérieur du monde entier, qu'il suscite admiration, émotion, discussion. Après les représentations, il y a une véritable émotion, alors pour le coup collective, qui s'empare du public. Je pense que vous l'avez recherché à dessein, Joël Pommerat, dans un livre passionnant qui vient d'être publié aux éditions Actes Sud Papier, qui s'intitule « Avec Joël Pommerat, l'écriture de Ça ira, fin de Louis ». Marion Boudier explique comment s'est élaboré votre travail. La sensation profonde que nous éprouvons, c'est que vous avez en tout cas voulu essayer de raconter sans pour autant reconstituer. Mais vous vous êtes accompagné aussi dans ce chemin, vous êtes accompagné par des historiens spécialistes de la Révolution.
Une forme d'actualité du passé, non?
Bon, les formules, je crois que j'en ai épuisé pas mal. Aujourd'hui, je sais plus laquelle est d'actualité pour moi, justement.
Mais parlons des mots.
Mais je voudrais préciser un petit truc qui est important, parce que je voudrais pas laisser dire que mon travail, c'est un travail, enfin ce travail avec ce spectacle, ça ira, c'est un travail qui donne la voix au peuple. Parce que, pour plein de raisons, parce que d'abord, comme vous disiez, pour avoir un petit peu travaillé pour ce spectacle sur les archives, d'être à la recherche de traces, et les seules traces, les premières traces, quand on fait l'historien, même amateur comme moi, c'est l'écrit. Ça veut dire que la parole populaire, a priori, elle n'est pas forcément représentée dans l'écriture, ou alors avec une médiation, et c'est un problème. Elle n'est pas directe.
Donc
ça veut dire que ça veut dire que chez les éduqués, pas simplement les riches et les nobles, il y a beaucoup d'écrits, il y a des témoignages, il y a toute la noblesse a écrit ses mémoires, mais la mémoire des gens du peuple, j'aime pas ce terme, mais en tout cas des gens de la classe populaire, on n'y a pas accès. Et donc on est vraiment là pour le coup dans une extrapolation, enfin obligatoire quoi, dans une imagination et dans un travail de fiction. Donc il y a en quelque sorte un déséquilibre total entre des archives qui sont foisonnantes pour certaines classes sociales et qui sont quasiment inexistante pour les autres. Et puis moi je dois dire que c'était pas, j'avais pas cet objectif là au départ. Au départ c'était de faire un récit, c'était au départ moi je suis un metteur en scène de théâtre, auteur metteur en scène, c'était de faire une pièce de théâtre.
Mais historique.
Oui, faire un drame historique, c'est dans la pure tradition des
1789, c'est peut-être pas un hasard.
Des auteurs de théâtre, c'est un événement formidable. Il y a des grands auteurs de théâtre, Shakespeare en tête, qui ont écrit sur des événements de l'histoire de l'Angleterre et qui
Et plus proche de nous, cher Joël Pommerat, il y a une metteuse en scène qui a fait 1789. Elle s'appelle Ariane Mouchkine. Je vous propose de l'écouter. Elle va parler de sa pièce et du lien entre le théâtre et l'histoire. C'est une archive INA du 21 mars 1989.
Je l'ai vue. Magnifique.
On était heureux, parce que la Bastille, on la détestait, parce qu'elle est pour vous, pour nous. Elle était le roi, la misère, l'arbitraire, les
justice, tout ce qu'on ne voulait plus et qu'on ne pouvait plus supporter. Et nous sommes partis vers la Bastille.
Le théâtre et l'histoire ont un lien très très profond. Ça je le pense. Je pense que c'est vrai chez les Grecs, je pense que c'est vrai chez les Élisabéthains, je pense que... Donc ce n'était pas une découverte nouvelle. C'est vrai qu'avec 89, le soleil a commencé une démarche qu'il n'a, pour ainsi dire, plus quitté ensuite, qui a été effectivement un travail sur théâtre et histoire. Mais une révolution, c'est une histoire particulière, c'est une histoire interne. L'autre fois, à la fin de l'Indiade, comme ça, quand on a fini de travailler avec l'Indiade, je me suis rendu compte qu'en fait, le soleil, que ce soit ses propres spectacles de création collective ou qu'il ait eu affaire à un auteur disparu et mythologique comme Shakespeare ou vivant comme Hélène Cixous, en fait, nous avions travaillé tout le temps sur la guerre civile. Ce que j'appelle la guerre civile, c'était la guerre intérieure, la guerre des familles, la guerre
sociale.
Et peut-être, alors je ne veux surtout pas théoriser ça, parce que je me refuse à théoriser. Je me suis dit peut-être que c'est le sujet théâtral par excellence qui est la guerre fratricide, interne, entre même famille, entre même clan, entre même pays. Bon, et une révolution, c'est quand même une guerre civile.
Nous venons d'entendre la voix d'Ariane Mouchkine à propos de sa mise en scène de 1789. C'était au théâtre de la Cartoucherie avec sa compagnie Le Soleil. Effectivement, c'était il y a longtemps. Et quand on voit votre pièce et votre représentation de la Révolution, Joël Pommerat, on se dit que c'est peut-être les mentalités qui ont évolué durant ces décennies et que on voit pas du tout 1789 de la même manière quand on vient voir votre spectacle que quand on allait voir le spectacle d'Ariane Mouchkine. C'est pas la même individuation de chacun des acteurs de la Révolution. Ce n'est pas la même intensité de la parole. Est-ce que vous êtes porteur d'une idée particulière de la Révolution? C'était plutôt Michelet, c'était plutôt Sebouls.
Je pense que déjà, on est porté, nous les créateurs, et c'est certainement les historiens aussi, on est porté par notre époque au moment où on travaille sur une période historique, quoi. Et ça, je pense que on peut faire un travail de déconstruction personnelle intense, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas complètement échapper à ça. Je pense qu'Anouchkine est clairement à cette époque-là, elle regardait la Révolution, elle est portée par son époque, par l'utopie de cette époque que la société française traversait, qu'elle traversait particulièrement à travers son projet théâtral et son utopie de compagnie. Donc il y avait quelque chose là, qui il y avait une jonction qu'elle opérait avec les spectateurs. Il y avait un partage, et je pense que, enfin, clairement dans son projet, il y a l'idée: venez à la Cartoucherie, on va partager ensemble un moment de cohésion, de communion à partir de notre projet social, politique. Il y a l'idée qui est revendiqué par Anouchkine de partage. Moi, je me situe pas comme ça, mais c'est pas simplement la période, c'est aussi...
Ah bah excusez-moi, Joël, quand on va voir Saïra, on ressort quand même avec un sentiment de révolte et de tentative de compréhension que les moments de révolte et d'insurrection dans l'histoire française ont conçu notre appétit de liberté. Et que ça se passe aujourd'hui, et qu'on est des corps vivants, nous, en train de regarder des gens qui ont, en 1789, qui nous paraît pas si lointain, qui ont osé s'affranchir de leur peur pour pouvoir construire un récit et une action démocratique. Mais Michel Rio-Sarcé.
Chacun, j'imagine, investit sa propre pensée, que l'on soit historien ou tout simplement citoyen, on pense avec les outils qui sont les nôtres. Et du même coup, nous, les historiens, comme les artistes, nous essayons de travailler en fonction d'une actualité du passé. Le souci d'Ariane Mouchkine était d'autant plus important que, en 1989, on venait déclarer la mort des utopies avec la chute du mur de Berlin. Donc là, c'était un acte même militant, d'une certaine manière. Mais je crois que cette actualité qui est la nôtre, et dans votre pièce, il me semble que chacun va y trouver ses préoccupations, restituer un passé non, mais retrouver une actualité d'hier, dans la mesure où beaucoup d'événements n'ont pas été accomplis, sont restés en rade, et aujourd'hui ressurgissent ici et ailleurs. Et cette résurrection, ou cette résurgence, elle se fait de manière complètement différente selon la façon dont on s'en approprie. Alors que ce soit du point de vue de l'art ou du point de vue des acteurs, ou nous, historiens, personnellement, j'ai choisi maintenant, définitivement, j'espère, de ne faire de l'histoire que dans son actualité qui renaît parce qu'une grande partie des promesses n'ont pas été vraiment, ne sont pas advenues. Et régulièrement, une fraction du peuple, une fraction de citoyens tente de se réapproprier un passé qui toujours ressurgit. Alors, c'est vrai que je ne suis pas la seule à penser de cette manière-là. Moi, j'ai emprunté à Benjamin cette façon de penser l'histoire. Lui, il va très loin. Il dit qu'il faut faire exploser les continuités parce que on a toujours l'impression que l'histoire a un sens. Et c'est toujours à partir des événements advenus, et pas simplement les événements advenus, mais des événements qui ont été interprétés d'un certain point de vue, qui l'emporte, et on a l'impression d'une continuité linéaire absolue entre la Révolution française et notre République. On oublie simplement que notre République, dont, enfin, la Ve République, a été en quelque sorte construite sur un rejet de ceux qui, comme en 1848 et même en 1792, imaginaient une République complètement différente, profondément démocratique. Cette continuité est particulièrement dommageable à la pensée, pas simplement à la pensée critique, mais à la pensée, parce que on fait en sorte de faire croire que nous sommes en démocratie, de faire croire que nous sommes dans un monde construit par nos ancêtres. Non, c'était pas ce monde qu'ils souhaitaient. Et régulièrement, les antagonismes, les rapports de force l'ont emporté d'un certain côté. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, c'est la première fois de ma vie, ou presque, que je suis de plein pied avec l'actualité. Aujourd'hui, tous les mensonges d'hier se dévoilent. Les vérités se révèlent. Et nous sommes dans un moment extrêmement clé. Alors vous allez dire, régulièrement, on est toujours dans les moments clés, des moments de transition. Mais je ne crois pas, parce que là, il y a quelque chose qui mobilise la grande majorité de la population. Pas seulement ceux qui manifestent. Il y a une grande partie de la population qui est extrêmement politisée. J'ai découvert par exemple, je parle même pas à l'échelle de France, hein. J'ai découvert en octobre, lorsque je suis allée en Algérie, une population très 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 active, très en questionnement, s'interrogeant sur tout. On parlait à peu près la même langue ou presque. Et les voilà qui aujourd'hui réclament une liberté à laquelle ils avaient adhéré en 1962. Donc les images de 1962 renaissent, et du même coup on retrouve un passé oublié. C'est aussi bête que ça. Et donc, et aussi évident que ça. Et cette émergence d'un mouvement populaire, ou deux mouvements populaires à l'échelle mondiale, donc c'est ce processus-là qui me semble extrêmement important à prendre en compte. Et je cite souvent, quand j'interviens dans les conférences, ce propos de Derrida dans Spectre de Marx, remarquable livre. Nous sommes les héritiers de deux siècles d'illusions et de mensonges. Et à l'heure actuelle, on est en train de retrouver une vérité réelle, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, qui a été jusqu'alors largement masquée par des discours en surplomb.
Pressentiez-vous, Joël Pommerat, tout ce côté qui effectivement résonne de manière ultra-contemporaine, presque trop? Quand vous avez commencé à travailler sur ce thème de la Révolution, je dois dire que, comme de nombreux spectateurs, j'ai éprouvé une sorte de bain de jouvence quand j'ai vu votre spectacle, que je vais d'ailleurs aller revoir parce qu'on peut pas tout comprendre tellement il se passe de choses à l'intérieur de ces 4 heures, hein, je crois que ça dure 4 heures. Et surtout, si vous voulez, vous avez le respect du spectateur. Parce que vous ne nous livrez pas une vision manichéenne de la Révolution. Tout ça est tissé de contradictions, d'échanges, de déchirures, d'engueulades, etc. Personne ne détient la vérité à l'intérieur de votre spectacle. Est-ce un spectacle sur la recherche de vérité ?
Non, c'est un spectacle, je pense, qui cherche à rendre compte des événements. Enfin, c'est banal de dire ça, à rendre compte d'un processus, de faire un récit, de faire un autre récit. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire de finalement déconstruire le récit qui a été établi en surplomb des événements réels, si on peut dire. Donc, évidemment, je prétends pas donner la vérité de ces événements, mais en tout cas, plus de donner la vraie vérité, démonter la fausse vérité établie et qui finalement, je pense, se trouve dans la tête de beaucoup de spectateurs qui viennent voir ce spectacle sur la Révolution. Il y a une sorte de plaisir, je ne sais pas s'il est coupable, mais un plaisir de me dire que je vais déjouer des attentes, que je vais le plus possible essayer de rendre compte de la complexité des instants. Et si dans cette recherche-là, je peux... sans le faire de manière volontaire, donner un petit peu d'espoir, donner quelques clés. Mais c'est pas moi qui les donne, ce sont les événements eux-mêmes qui les donnent. Et j'en parlais quand on s'est croisé à la répétition, ce moment très important où des gens élus pour être représentants délégués à cette assemblée des États généraux décident de manière, comme on dirait, extrêmement téméraire, culottée, de dire: Nous décrétons Assemblée nationale. Et qu'on vient leur dire, vous êtes illégaux. Et qu'ils viennent dire, nous sommes illégaux, mais nous sommes justes. Nous sommes légitimes. C'est légitime ce qu'on pense. C'est-à-dire, vous nous opposez la loi et nous, on vous oppose une légitimité qui bien sûr, peut toujours être démontée aussi, qui abstraite peut-être finalement. Mais ça, si, je l'ai pas, enfin, ça n'est pas une fiction inventée de ma part. C'est quelque chose qui s'est produit réellement, qui est formidable. Rendre compte de ça, c'est peut-être donner, je sais pas, quelques clés ou donner à, et pourquoi pas aussi de l'espoir à des gens qui vivent des situations politiques aujourd'hui qui pourraient être comparées ou comparables.
Merci. Merci, Michel Rio-Sarcé. Merci, Joël Pommerat. Hélas, le temps est venu de nous quitter. Ça ira, ça vient juste de commencer, de recommencer. C'est à Paris jusqu'au 19 mai, au Théâtre Saint-Martin. Et on va se quitter avec un chanteur. Je crois aussi que vous aussi, Joël Pommerat, vous l'aimez beaucoup. Il s'appelle Eddie Depreto.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce gris est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minère. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur. Souvent je mens pour fuiter en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui gagne. Comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, même si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, même si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tact de sursoir pour que ça marche, en attendant je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui code, comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Et c'est avec Random d'Eddie de Préto que nous allons nous quitter ce soir. Après avoir remercié encore une fois Michel Rio-Sarcé et Joël Pommerat, qui reprend avec beaucoup, beaucoup de succès Ça ira, fin de Louis, jusqu'au 19 mai au Théâtre Saint-Martin à Paris. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses choix musicaux. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Alaume qui a réalisé comme chaque soir cette émission.